Passage du poète, quatrième partie. Chapitre 14. Ils avaient décidé que la fête aurait lieu le dernier dimanche d'août. Tout à coup, ils avaient dit « Si on la faisait cette année ?» Et ils avaient tous été d'accord sur ce point, étant tombés d'accord aussi quant à la date, parce que c'est un mois où le travail est moins pressant. On a fini les sulfatages, les soufrages, et plus tard il faut tout préparer pour la vendange. On lave les tonneaux, on met de l'ordre dans les caves, on graisse la vis du pressoir. Entre deux temps, après les sulfatages et les soufrages, avant que les grappes commencent à traluire, une fête, un beau dimanche pour se réjouir, cette fête de tir. Et tous, c'est une bonne idée, depuis le temps, ça nous manquait. Mademoiselle Mathilde a vite été acheter des journaux de mode qu'elle feuillette avec ses amies dans la tonnelle du jardin. Elles ont regardé comment elles allaient faire ces robes, et elles sont sans manches cette année. Est-ce qu'on oserait? Sous la tonnelle, 3 ou 4 semaines à l'avance, heureusement qu'il y a ces capes ou ces collerettes tombantes. Alors Mademoiselle Mathilde s'est décidée pour une robe à berthe d'organdi. Les deux machines, celle à pied, celle à main, n'ont plus arrêté de tourner pendant tout le mois chez Mademoiselle du Cimetière, comme quand on chantonne à deux voix. Puis l'une des deux se tait. On a entendu Congo qui vient, et il toussait, puis crachait. Il tousse, il crache, il s'arrête, il a regardé ses pantoufles, il a dit « Ça ne passera pas comme ça ». Il lève le bras, il le tient un moment levé au-dessus de sa tête, il la baisse. Je vais aller lui parler. À ce moment, les deux machines ont recommencé à tourner de compagnie et on n'a plus compris ce que Congo disait, bien qu'il continue à parler tout haut avec des hochements de tête, tout en se dirigeant vers la place. Il sait bien qui il va y trouver sous les platanes, entre deux de ces troncs nus de leur écorce tombée comme d'une robe tombée, sous les grosses branches courtes, maintenant rejointes, et aux vides qui ont été bouchés, comme quand, en travers des poutres, on met des lattes, on met du plâtre, et c'est un plafond. Ah, ce qu'elles m'en font des misères, monsieur Besson, heureusement que vous êtes là. Alors écoutez, parce que j'ai écrit une lettre à la municipalité. J'ai le brouillon. Il tire de sa poche de pantalon une feuille de papier pliée en quatre, qui est une page arrachée à un carnet de compte, avec les colonnes imprimées en rouge. Ayant été dans l'intention de quitter plusieurs fois rapport à ces mauvais traitements, on voit que c'est écrit au crayon. « Je veux leur faire remarquer ça, » a-t-il dit. « Et puis ça ne va plus, et puis il y a un gros pli. Attendez. » Et puis c'est écrit au crayon, et il a eu beaucoup de peine, tandis que ses gros doigts tremblaient de l'un et de l'autre côté de la feuille, et étaient roses, avec des ongles blancs. Besson qui va, pendant ce temps, « Ayant pourtant fait tout mon possible pour patienter jusqu'à aujourd'hui, attendez, rendant ces messieurs attentifs au dommage qui m'est causé, vu le défaut d'hygiène relatif à mon état et à ma situation méritée, ayant voyagé, parce que vous avez voyagé aussi, vous savez ce que c'est, vous, ayant eu connaissance de plusieurs pays et péninsules, attendez, tant dans l'ancien que dans le nouveau continent, ce qui peut être établi par des documents authentiques que je tiens à votre disposition, et n'ayant connu en retour que la méconnaissance de mes compatriotes et l'ingratitude la plus noire, comme il sera prouvé à volonté, à 69 ans d'âge, dont 50 de services patriotiques sur terre et sur mer, l'ayant empêché d'assurer à sa vieillesse les ressources convenables et demandant en conséquence qu'une enquête soit ouverte touchant l'état des lieux, le boire et le manger. Hein ? L'interrogation a suivi de si près le dernier mot lu par lui qu'on a pu croire d'abord qu'elle faisait partie du texte. Puis il a dit « Il ne manque plus que des salutations ». Et il se met à rire. Il est parfaitement content. La rancune qui est dite n'est déjà plus de la rancune. Celui qui a pu se dire se quitte. Sa personne part en avant. On avait commencé à tirer dans tous les stands. Mademoiselle Mathilde a été chercher sa robe. Ce certain samedi, veille de la fête, elle est revenue avec sa robe, qui est soigneusement pliée dans un carré de toile, épinglée aux deux bouts. Elle est montée dans sa chambre. On tirait dans tous les stands. Elle pose la robe bien à plat sur le lit, puis a été tourner la clé dans la serrure. Elle a écouté encore de derrière la porte fermée si par hasard on montrait, parce que peut-être sa mère l'avait-elle entendue rentrer, mais il ne semble pas. Elle est revenue. On tirait dans tous les stands. Elle revient sans faire de bruit, ayant ôté ses souliers. Elle voudrait tellement être sûre. C'est quand il y a celui qui tresse ses paniers sur la place, et il va y avoir 6 mois qu'il est là. Comme d'autres dans leur chambre écrivent sur du papier sans qu'on sache ce qu'ils font, ni pourquoi, ou d'autres peignent sur de la toile. Alors elle ôte les épingles, puis va les piquer dans le mur. On tire dans tous les stands. Elle prend la robe par le haut, entre deux doigts, et la laisse tomber le long d'elle. C'est une robe blanche, avec une ceinture basse, sans ornement ni garniture, et sans point de manche non plus. Mais il y a cette berthe qui vous tombe tout autour du corps jusqu'au coude. Une de ces robes chemises, qui sont sans forme par elles-mêmes, parce que c'est le corps qui leur en donne une. Et alors, elle n'a plus osé. Il semble qu'elle ne va jamais pouvoir se décider. Elle a dépendu le miroir d'au-dessus de la table de toilette pour aller le pendre à un clou dans l'embrasure de la fenêtre. Tout est prêt, et c'est justement pourquoi, on dirait, ne se risquant même pas à tourner la tête vers elle-même et son image. Et on tirait encore. Il y avait un coup de feu isolé. Il y en avait plusieurs qui se suivaient à de très petits intervalles, comme quand on fait sauter les points d'une couture en tirant sur l'étoffe. Quelques entêtés, ou bien il y en a qui ont la manie de faire des essais, lisant dans les journaux les conseils qu'on y donne avec toutes sortes de recettes. Souffraient encore dans les vignes, ou faisaient des applications d'arsenic. Nous, on est déjà sortis du travail. C'est la fête. On monte sur son travail comme on monte sur un mur, pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Sortir de soi-même, monter à soi-même. Mais elle n'osait toujours pas. Elle a tenu sa robe contre elle un grand moment, étant en même temps encouragée et découragée. Tellement de silence dans la maison. Et quand on serait si tranquille, parce que décidément sa mère doit être sortie, et c'est bien sur quoi elle a compté. Regardant par la fenêtre le soleil qui baisse, pas encore entré pourtant jusqu'à elle, à cause du large avant-toit, mais elle sait qu'il n'entrera que juste au moment de se coucher. Et Congo a remis la lettre dans sa poche, puis il a dit « N'est-ce pas que ça va ?» Et sans attendre la réponse, « Je vais aller la copier. » Étant parti en hochant la tête le plus vite qu'il pouvait par la ruelle. On tire dans tous les stands. « Non ? Oui ? » Elle vient de voir devant elle les ombres des maisons et celles des murs dans les vignes s'allongeaient toujours davantage, ayant commencé d'ôter sa vieille robe. Mais qui est-on et qu'est-ce qu'on vaut? Elle avait des bas de coton, elle ôte ses bas. Elle a un jupon de dessous, elle ôte son jupon. La fanfare s'est mise à jouer. Ils avaient constitué à la ville un comité, et tous les villages du district avaient un représentant dans ce comité. Ils ont été chercher sur les monts des branches de sapin et de la mousse que les enfants des écoles tressent en guirlande et où ils piquent des roses en papier sous la surveillance des femmes. Les hommes, pendant ce temps, faisaient sauter le pavé et plantaient en terre les hauts fourrons, comme ils disent, les hautes perches non écorcées où les guirlandes devaient venir s'attacher. Ils étaient descendus des monts avec des charrettes à bras ou des attelages de 2 chevaux tirant un double train de roues. La forêt venait en bas, s'étonnant des vignes qu'elle traversait, et davantage encore de l'eau, dont elle se tient d'ordinaire dans un grand éloignement, la méprisant de ses hauteurs. Ils claquaient du fouet, les mécaniques serrées à fond criaient à cris non interrompus comme des sirènes de bateaux dans la brume. On voit juste au-dessous de soi les fissures que font les rues, comme si c'était une galette d'argile, du genre de celle que s'amusent à faire les enfants, et puis ils les oublient au soleil. Ils tombaient peu à peu vers les toits aperçus d'en haut, qui ont été se séparant, puis ils sont devenus pointus. Pendant ce temps, une bande d'enfants venait par les sentiers, ne pouvant plus se servir de leurs bras, et avec des sacs sur le dos. Les plus grands étaient avec les charrettes, elles aussi lourdement chargées. Et longtemps derrière eux, ça sentait la terre noire, la résine, le champignon, l'aiguille de sapin, l'écorce. Ça sentait fort et frais dans le grand soleil, parmi l'odeur fade qui montait du lac. Ils mettaient ensemble, ils réconciliaient, ils remariaient les climats, les essences, ils reconfondaient les natures. Puis il y a aussi les produits fabriqués, papier de soie, cotonnade, peau de couleur, et on allait chercher dans les greniers les drapeaux qu'on y tenait roulés depuis des années, et les écussons de carton un peu passés, mais qui pouvaient servir encore, qui vont servir. Alors on a entendu le bruit des marteaux, le bruit des scies. On riait de voir M. Borgeot de la boutique monter difficilement à son échelle, parce qu'il y avait son ventre qui s'était mis entre elle et lui. Mais il est monté jusqu'au fin bout quand même, voulant pendre des lampions à ses fenêtres. Pendant ce temps, toujours, partout, ces coups de feu. Ceux-ci ont fait claquer leur fouet à eux, leur gros fouet à lanière de cuir donnant un coup sec, qui est aussitôt imité à 3, 4, 5, 6 reprises. Aussitôt repris, imité, mais en même temps devenu plus sourd, et qui traîne, qui se prolonge, qui ne veut plus finir. Parce qu'il y a la forme du mont, il y a sa forme de corbeille avec son double avancement, ce creux fait comme exprès pour recueillir. Le bruit d'un coup de feu n'est pas mort qu'un autre entre déjà dedans. Et un autre encore. Les départs se confondent avec les retours. Il n'y a plus de fin à rien, mais seulement continuation et suite, comme si le mont roulait sur des roues, à cause de tous ces stands étagés. Et dans ceux du bord de l'eau, on tirait par-dessus l'eau d'une pointe à l'autre. Dans ceux de plus haut, c'est par-dessus un pli de terrain, et d'un des versants à l'autre versant, par-dessus les chemins et les murs, par-dessus les têtes. Et si vous êtes en petit bateau, tout à coup vous entendez siffler à vos oreilles cette méchante abeille trop pressée, allant en ligne droite que rien n'arrête. Ou bien c'est haut, dans l'air, comme quand le martinet au vol rapide passe avec son cri, le soir. On voit monter le drapeau rouge. On voit devant les cibles monter le drapeau rouge, qui veut dire qu'on a fait mouche. Et c'est la palette blanche, quand le coup a porté dans le noir. La palette noire, quand le coup a porté dans le blanc. Là-bas, l'alignement des 4 ou 5 cibles dans leur cadre de maçonnerie, sous les lettres majuscules A, B, C, servant à les numéroter. Et elles se mettent ainsi à vivre certains jours. Elles s'animent, quand le mont est comme un attelage qui n'en peut plus sous les coups de fouet. Et quelquefois aussi, la palette se balance longuement sans se poser. Ah, saleté, nom d'un tonnerre! Et on entend, c'est pourtant pas possible, je devais être dans le 4, j'étais sûr de mon coup, dans le 4, un peu sur la droite. C'est cette carabine, ou bien si c'est la munition? Rubatel, passe-moi ton arme et tes cartouches. Et l'homme se remet en position, les uns debout, les autres à genoux, les autres couchés pour leur série dans la terre sèche, avec tout un système de sonneries, en bras de chemise, leur chapeau de paille souple à l'aile rabattue sur les yeux, commençant de viser à ras de terre, fermant soigneusement l'œil gauche, clignant l'autre. Et on voit le canon du fusil monter très lentement, monter encore, se déplaçant quelque peu d'un côté, de l'autre côté, à la suite de quoi le choc vient dans l'épaule, en même temps que la douille saute en l'air. 4, tu vois, je savais bien, je vous avais bien dit. 4. Dis donc, Louis, tu marques. Et un autre. 3. Tu marques. Par-dessus l'eau, par-dessus deux pentes rejointes du bas avec leurs murs, leurs escaliers, et la palette noire, la palette blanche, le drapeau rouge. 5. Tu marques ?
C'est marqué.
D'un talus à l'autre dans les vignes, d'une vigne à une autre vigne, par-dessus l'eau du lac qui est empêchante, surtout le soir, parce qu'il y a tout le ciel qui y tombe, trop jaune, trop rose, trop blanc. Ils disent « Ce n'est pas du jeu, ça !» Quand ils ont à se défendre ici contre deux lumières et ceux du mont pas. Celle qui vient d'en haut, celle qui vient d'en bas, toutes ces couleurs et qui changent comme une fille qui aurait trop de robes. Et puis un gros nuage blanc est venu avec son reflet, comme on voit, à ce qu'on raconte dans les livres sur les mers du pôle, des champs de neige se promener. Elle se regarde vite encore et voit aussi sa coiffure qui est mal faite, qu'elle a défaite, et ses cheveux lui sont tombés sur les épaules comme Dieu les lui a donnés. Il n'y a personne dans la maison. On tire dans tous les stands, la fanfare joue une marche militaire. Elle ôte son peigne, ce qui fait que, ses cheveux n'étant plus retenus, elle peut les prendre dans ses mains. Elle voit jusqu'où ils descendent. La carafe, le verre, le pot à eau, la petite table de toilette recouverte d'une toile cirée à damier, le plancher de sapin, les images au mur. Jusqu'au milieu du dos, plus bas que la ceinture. Alors la main n'a qu'à aller de côté. La fanfare a joué une marche militaire, puis le directeur dit « Halte, recommençons. 7e mesure, vous y êtes ?» Sa baguette va et vient devant le tableau noir. Les hommes sont assis sur les bancs d'école, sauf les gros instruments, le bombardon, les basses, qui doivent se tenir debout. La fanfare repart. Et c'est noir, c'est annelé, c'est plein de reflets, comme l'eau quand il y a des vagues, sous l'éclairage venant de côté. Elle a osé. Elle ose un peu plus. Pour être toute neuve, être comme si on venait seulement de naître et recommencer. Elle regarde ses bras. Est-ce vrai? Est-ce bien vrai? La fanfare continue de répéter patiemment sa marche, et on a fini par ne plus entendre les coups de feu tant il y en a. Long, rond, mince, plein, avec deux lignes bien droites et bien égales, jusque tout en haut, à peine tremblé, juste ce qu'il faut, sans quoi ce serait ennuyeux. Si c'était vrai pourtant. Brune de peau. Et puis alors, remontant, la figure. Elle ose. Elle s'étonne. Moi ? Rien qu'une bouche, un nez, deux yeux, une figure comme la lune du bon Dieu, simple, ronde, qui la regarde, qui lui a dit « Oui !» qui vient en avant. « Oui, oui !» Et puis « Oui !» encore. Alors se sont montrées les dents, petites et blanches comme celles des souris. Et encore une fois, « Oui, oui !» pour lui dire « il faut oser, il faut croire !» Et il y a le menton un peu renflé, comme au pigeon quand il roucoule, avec un pli marquant le haut de la gorge tendu, où tout à coup il y a de la place, et il y a une grande surface pour y faire venir, y tenir, y loger. Alors le cœur lui est parti. Elle a osé aller prendre sa belle robe. Elle pense « ce sera pour lui ». L'amour revient, il a été partout, dehors, dedans, dans l'air, en elle, dans ce qui est, dans ce qu'elle est et dans les choses, et tout s'abandonne et se laisse faire. Et quand le soleil est entré, il a été dans le soleil. Car tout à coup, le soleil entre. Il s'est tenu entre l'avant-toit et la montagne, par-delà les vignes, quittant l'avant-toit. Tandis qu'elle, elle va chercher dans un carton ses souliers neufs, des bas de soie, et il faut se faire belle, puisque tout se fait beau. S'habillant tout de blanc comme une mariée, pendant qu'on voit le soleil qui descend aller vers la montagne, et la montagne se soulève, tendant vers lui les bras, comme quand l'amante est déjà couchée, l'amant vient. Elle dit « Viens, viens encore, viens plus près. » et sa tête trop lourde à lui va en avant, se logeant au creux de l'épaule. Elle rit, comme une mariée, toute blanche, toute prête déjà. La fanfare a commencé à jouer une danse. On entend « Est-ce que vous venez demain ?»« Je voudrais bien. »« Qu'est-ce qui vous en empêche ?»« C'est le petit, il se fait lourd. »« Pourquoi pas ?»« Alors vous m'en réserverez une. »« Laquelle voulez-vous ? » ?»« Un galop ou une sautiche ?» Et un rire tout trembloté, parce que c'est la vieille Jacquillard qui a 72 ans passés, comme on l'a appris par la suite. Mais ça n'empêche rien. Bien sûr que non. La fanfare a joué sa valse d'un bout à l'autre sans une faute. Il commence à faire nuit, alors ils reviennent du tir, en bande, leurs fusils sur leur épaule. Sur la place, il y a Besson, Besson qui travaille toujours. Et le lendemain matin, à 6 heures, les concours de tir ont continué. Ils ont été interrompus de 9 à 11. Ils ont repris jusqu'à midi. Ensuite, les bateaux à vapeur ont commencé à amener le monde. Il y a eu 3 courses supplémentaires. Ils n'ont plus arrêté de siffler, se vidant de leurs passagers l'un après l'autre sur le débarcadère, comme d'un sang huileux ayant peine à sortir. Les grands bateaux blancs à roues avec une seule cheminée. Italie, Savoie, Rhône, Mont-Blanc. Et le monde, lentement, coule d'eux dans le soleil pour entrer tout d'un coup sous les ombrages de la place où les chapeaux des dames ont été comme des bougies qu'on a soufflées, la mode étant au chapeau rouge. On a été, venant du lac, dans la direction du mont. Le monde remontait les rues pour en admirer la décoration. Sous les guirlandes, sous les drapeaux, sous successivement chacun des 4 arcs de triomphe avec leurs devises, dont l'une dit « Rendez hommage aux vignerons, car c'est le vin qui fait l'union », écrite en belles majuscules sur un carré de carton qui se balance au-dessus des têtes dans le courant d'air. Une deuxième balançait « La vie est courte, et vous venez, et ce soir vous repartirez, alors souvenez-vous de nous en vous en retournant chez vous ». Tandis qu'on venait, en effet, on levait la tête, on lisait. Et on continuait d'avancer jusqu'à une autre encore. On arrivait alors sous le pont du chemin de fer. Là, on ne va pas plus loin. Là, on s'arrête. Là, les gens faisaient halte. Là, les gens sont tenus arrêtés. Ils ont vu le pays se lever devant eux, comme sur un plan de géomètre. Tout le district leur est apparu, pendant qu'eux-mêmes se tenaient au chef-lieu, c'est-à-dire dans son centre, ayant devant eux cet extrait de cadastre, avec ses carrés réguliers, jaunes ou gris ou verts, les taches rouges des villages, des traits simples qui sont les chemins, des traits doubles qui sont les routes, en minces couleurs de la vie posées à plat, sous juste ce qu'il faut de ciel pour marquer où finit la chose. Le district et eux au chef-lieu, sur sa frontière, où ils attendent, tournant le dos à l'eau et à ce 4e côté qui ne compte pas, non utilisable. Face au pays des hommes, aux lieux habités d'où ça va venir, et ils regardent encore si, des fois, ça ne viendrait pas, mais rien. Et ceux qui se sont tenus là d'abord ont eu le temps de s'en retourner et d'être remplacés par d'autres. Toujours rien. Comme si c'était peint sur du papier. Rien. Ça ne bouge pas, ça ne parle pas, ça se tait. C'est comme rentrer sous terre, dimanche. Personne dans les vignes, personne sur les chemins, personne pour le moment. Alors, 2 heures sonnent à l'horloge. Ça a commencé par un bruit de tambour. Les villages sont facilement comptés. Une route passe dans chaque village et... ou bien c'est toujours la même, ou bien elles se rejoignent. Quelques-uns vont venir d'en haut, c'est-à-dire de dessus la crête. Quelques-uns d'à mi-mont, quelques autres d'en bas. Et ils viennent de droite et de gauche, mais viennent tous au même point. On compte facilement ces villages, tant c'est nu, c'est dépouillé, c'est lisse à l'œil, comme quand c'est peint. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, en plus de quoi quelques groupes de maisons dans l'isolement, ne comptant pas. Quelques vieux châteaux, quelques tours en ruine. Cinq villages, ce qui fait cinq communes. Et rien. Puis il semble qu'on a entendu le tambour. C'est quand les gens d'en bas se sont dit « Tu as entendu ?»« Non. » »« Je te dis que si, moi. Écoute. » Mais on n'est pas sûr. Et on ne peut pas voir, parce que c'est trop loin. C'est là-haut, dans le village de tout là-haut, sur la crête, à votre gauche. Là où ils ont le globe et la croix. Et voilà qu'ils ont élevé au-dessus de leur tête le globe et la croix. Ils les ont levés devant eux, au-dessus des murs bordant la route, et de derrière l'angle de la dernière des maisons. Alors les tambours sont en tête. Ensuite vient la fanfare. Eux, ils marchent derrière la bannière dans leurs habits noirs du dimanche, ils marchent derrière l'écu où il y a le globe peint dessus et il y a la croix peinte dessus. Le syndic, le président du conseil communal, la municipalité. Ensuite, les demoiselles d'honneur et les tireurs, sur la route, là-haut, à gauche. Tandis que plus bas, sur la droite, viennent à présent les trois sapins verts. Ça vient. On ne voit rien encore. Ceux d'en haut vont de gauche à droite, ceux de plus bas de droite à gauche, pour qui regardent, mais on ne voit rien. Derrière le globe et la croix, derrière les trois sapins qu'ils ont, ces autres, et eux aussi, leurs demoiselles d'honneur en blanc, qui sont huit, dont Mathilde, marchant deux par deux. Et à présent, qui sortent deux par deux, tenant des fleurs, sortent de l'ombre, dans leurs robes blanches, sous leurs beaux cheveux. Les femmes qui nous sont promises après nos peines, les femmes qui seront à nous, une fois, à nous ou à toi, avec qui tu seras au lit en récompense, et tu lui feras un baiser, puis un troisième, plus appuyé. On n'avait encore rien vu d'en bas, de la ville, au pied du mont où ils se tiennent. Puis, hé, tu vois? Une, tu vois? Deux, trois, où ça, la troisième? Cette fois, c'est à droite, dans le village du milieu, et ça en fait trois, en effet, trois bannières qu'on distingue au-dessus des murs, et celle-ci porte le cep chargé de fruits. Et voilà que ça en fait quatre à présent, puis voilà que ça en fait cinq, et elles viennent. Alors on a vu comment c'est fait dans le cœur de l'homme, par ces chemins qui tombent dans les routes, ces routes qui tombent les unes dans les autres. Ça vient peu à peu, ça se rapproche, ça grandit. À présent, on distingue très bien au-dessus des murs les têtes, le haut des corps, les instruments nickelés, les bannières aussi qui penchent vers vous et vers ici. Alors il y a eu ceux d'ici. Il y a eu ceux d'ici, ceux de la ville, ceux de la grosse grappe, remplissant à elle seule l'écu sur son étoffe. À un moment donné, signal. Un coup de canon, les cloches. Ceux d'ici. Et quand ils ont vu que les autres cortèges allaient se réunir, alors ils ont formé le leur. Les pompiers courent avec leurs cordes, refoulant le monde dans le bord des rues et sur les trottoirs. Ceux qui n'arrivent pas à s'y loger, repoussés jusque sur la place. Le canon tire, les cloches sonnent, la fanfare éclate. Et ceux d'ici s'ébranlent à leur tour, allant à la rencontre de ceux qui viennent, pour leur faire escorte, les amener. Cloche, canon et unité. Les fenêtres viennent dehors par le débordement des têtes. Dans le cadre en grès usé, trois étages. Trois, quatre étages de figure. Les façades des maisons ont comme des soubassements de corps. À peine si à certaines places on aperçoit encore le pavé. Des fenêtres. Tant il y a de ces drapeaux, de ces écussons, de ces guirlandes. On ne sait plus si c'est le courant d'air ou bien le bruit qui fait qu'elles balancent ainsi, en même temps que balancent les cloches et le canon tire en mesure. Tout le pays se vide en dôme, vers ici, comme quand l'eau descend un toit. Et ici, ils sont recueillis, parce que c'est ici le milieu, et c'est ici que ça finit, devant le lac, mis là, pour faire plus beau encore, et qui est plein de bateaux, plein de barques, vu entre les gros troncs courts des ormes, les troncs moins gros, plus élevés des peupliers. Et au-dessus des toits, quelqu'un, et dans le ciel encore quelqu'un qui regarde, un aéroplane. Et en arrière alors, assis en rond, le mont, tout le grand mont, n'ayant plus autre chose à faire, qui a été quitté, mais ne s'est pas perdu des yeux, se voit encore, tout salué qu'il est et parcouru qu'il est, tout caressé par la musique, les sonneries, ou bien quand le canon, comme une grosse bulle de savon, vient crever contre les murs des vignes. Et c'est alors qu'on a vu des fenêtres le pavé se mettre à avancer doucement, à glisser, à couler dans la direction de la place. On a battu des mains, on a crié « bravo !» Du blanc, du noir et du blanc, et puis encore du blanc. « Bravo, mesdemoiselles !» Et puis du rouge et du blanc. « Bravo pour le globe !» Et puis « vive la musique !» Mais cette fois, on n'a rien entendu. Et il y a seulement les bouches qu'on a vues s'ouvrir, en même temps qu'on était éblouis, tellement ils avaient bien fourbi leurs instruments, qui ont passé dans le soleil, entre deux toits. Puis des chapeaux se sont levés, « Vive les sapins !» On entend de nouveau, puis « Vive les demoiselles !» Leurs bas minces, ses fins souliers en peau, et tenant la tête levée, riant, remerciant d'un signe, et on leur a jeté des fleurs. Et c'était tout blanc. Et puis de nouveau, c'est noir, avec des chapeaux de paille et des tubes, pendant que ça coule toujours. Ça va toujours d'un même mouvement, en mesure, du même pas, dans le même sens. Et ça va. Dans le bout de la place, du côté du levant, sont les chevaux de bois et les tirs de pipe. À l'autre bout, la cantine. Une ordonnance de police avait interdit aux chevaux de bois de tourner, et aux tirs de pipe de fonctionner pendant la cérémonie. La foule faisait silence, la dernière fanfare s'est tue. On a entendu un cygne battre des ailes, puis prendre son vol, faisant siffler l'air au-dessus de la baie. Dans les arbres, les moineaux, qui avaient été dérangés, sont venus reprendre leur place. Et on a entendu aussi le lac, bien qu'il fût sans vagues, mais même par les temps les plus tranquilles, un mouvement se fait à sa surface, comme quand une poitrine respire. Il va vers en haut, va vers en bas, va vers en haut. On a entendu le lac, pendant que tout le monde se taisait. Le premier orateur se lève. Vigneron. Premier discours, dans la cantine, où tous ceux qui avaient pu ont pris place autour des tables, devant l'estrade. Et il y a là-haut celui d'où la poésie provient, et que la poésie a quitté. Alors on ne va plus avoir besoin de lui. Alors, en ce moment, il se prépare à s'en aller. Ils sont ici devant l'estrade où il y a une grande table. On a entendu le lac. Sur l'estrade, le premier orateur s'est levé. Le premier orateur se lève, tandis qu'autour de la table, en demi-cercle, il y a les demoiselles, leurs mains tenues l'une sur l'autre, leurs bras allant en travers d'elles, leurs beaux bras nus. Et on a entendu le lac, et un grand cygne s'est envolé. Premier discours. Vignerons, tireurs, chers amis. Le cygne est déjà arrivé de l'autre côté de la baie. Là, il s'est laissé tomber, faisant claquer l'eau comme quand on tape dessus avec le plat de la main. Vignerons, hommes d'une chose. Vignerons, hommes qui avaient fait. Tireurs et vignerons, je vous salue. Et parce que vous avez fait, et à cause de cette chose, car vous voudriez la cacher que vous ne pourriez pas la cacher. » Il montre sur la table les bouteilles de vin d'honneur. « Elle brille trop, elle est d'une trop belle couleur, elle sent trop bon, elle a trop bon goût. Alors elle est là, et je vous salue. Il y a des gens qui écrèment, ils se contentent du plaisir de dessus. Vous, vous avez été profond. Vous, vous voilà d'abord contre la terre. Vous la regardez, puis vous dites « Est-ce qu'on y va ?» Vignerons, chers amis, vous savez bien, cette terre, il faut d'abord avoir sué contre, avoir fumé contre, avoir pleuré contre, avoir juré contre, avoir gémi contre, lui avoir dit « Non » plusieurs fois, l'avoir renié comme a fait Saint-Pierre. Et c'est parce qu'on l'aime. Et il y a certains jours où l'amour se retourne et où l'amour agit à rebours. Il dit non, Et puis quand même. Et alors, peu à peu, à travers la peine, par-dessous la peine. Rappelez-vous, pas au commencement, pas même au milieu, parce qu'on est parti, et puis il faut aller, et puis il faut aller encore. Dans le bout seulement, après qu'on a payé. Mais alors, ça vous est rendu.
C'est vrai, dit Bovard.
C'est quand ça commence à vous ressembler. Tout autour de vous, ça commence. Ça change, vous n'avez pas changé. Ça change d'après vous, selon vous. Ça se met à vous obéir. Ça se plie à vous. Ça devient docile. Vous regardez, vous dites « ça, c'est moi ». Vous regardez, vous dites « ça, c'est moi ». Ça, c'est moi encore. Et il n'y a plus que vous dans les vignes. Plus rien qui ne soit vous ou que vous vous tourniez. L'autre plaisir, le grand, le vrai, de tout le monde, pour tout le monde, celui d'après, celui d'avoir fait, celui d'avoir été les plus forts.
Oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est très vrai, crie Bovard,
et c'est comme j'ai toujours dit. Dans vos vignes comme chez vous, parce que la femme va bien, les enfants vont bien, la cuisine est propre. Alors les hommes se rapprochent, parce que quand l'homme est content, il va à l'homme, et l'homme qui n'est pas content fuit l'homme. Messieurs, vignerons, chers amis, je bois à la réunion.
Applaudissements.
Je bois à ce qui réunit, l'union du travail pour celle d'ensuite. Messieurs, vignerons, tireurs, membres des conseils, messieurs les représentants des autorités, à ce qui réunit, à ce qui nous a permis d'être ensemble aujourd'hui. » Bovard s'est levé le premier, tenant son verre, parmi les bravos. Deuxième discours. « Messieurs, je viens vous dire les mêmes choses, parce qu'on s'aperçoit bientôt que les grandes choses sont en petit nombre et toujours pareilles. Mais moi, je viens au nom de la famille, et parce que je suis de la famille, remercier d'abord l'honorable orateur. » Lui dire ensuite que nous l'avons compris, et, n'est-ce pas, lui dire aussi « Maintenant, vous n'avez qu'à prendre place parmi nous, parce que vous êtes, vous aussi, de la famille. » Et tout de suite, Calamain a commencé. Quand même, on cherchait à le faire taire. « Approuvez !»« Asseyez-vous parmi nous, tenez-vous pour toujours parmi nous, à présent qu'on est tous ici des frères. » Car « union » n'est pas encore assez le mot qu'il faut, parce qu'on a été divisé les jours de semaine, on a été divisé par l'argent, on a été divisé par les intérêts. On avait beau travailler ensemble et avoir le même travail et travailler la même terre, on vivait séparés. On était malheureux de vivre séparés. L'argent, on n'était pas encore monté dessus. L'argent, on était pris dedans. Il y avait les intérêts, les jalousies, les rivalités politiques, les querelles. Il y a eu non seulement les peines du corps, mais celles du cœur, pendant 6 jours. Et puis le 7e est venu. « Je connais ça !» crie Calamain. « Je connais ça depuis longtemps !» On le fait taire. « Car le monde a mis 6 jours à se faire, et aujourd'hui seulement vient le 7e jour. Alors c'est fini !» Et Calamain a dit encore quelque chose en levant la main. Sa voix se perd parmi l'autre voix. Une seule personne, jeune, vieux, homme, femme, enfant, parce qu'il y a une terre qui nous a pris contre elle, et elle est là, vous la voyez bien, toute proche, qui nous a mis sur ses genoux, nous serrant si fort qu'elle peut dans sa jupe, contre sa poitrine. Et il y a les sexes. Il y a les âges, mais il n'y a plus rien qui sépare, étant tellement mêlés ensemble, voyez-vous, qu'on ne va plus jamais pouvoir se démêler. Tandis que Calamain ne lève plus seulement la main cette fois, mais toute sa personne, alors on a dû le faire se rasseoir. Qu'on ne démêlera plus jamais ces mêmes sangs qui se sont mêlés en ce jour, comme je vous l'ai dit, ce 7e jour. Et c'est tout ce que j'ai à dire, car si je voulais parler des personnes, je séparerais. Si je voulais parler des sociétés, des groupes, je séparerais. Vigneronne au teint bruni, femme, fille, mademoiselle, eh bien non. Il dit, je ne peux pas.
Vous avez raison, crie Calamain.
Je regarde seulement encore une fois comment ça tient. Vous permettez?
Je sors un peu de parmi vous pour regarder de plus loin. Je rentre. Et je dis, ça faisait silence. On n'entend plus rien, en effet, car la main lui-même s'est tue. Ça se tient tellement tranquille dans le beau temps et le dimanche. Ça bouge seulement un petit peu d'un côté, de l'autre côté, comme quand une femme berce un enfant. L'enfant, les enfants, tous ensemble. Il se tait. Le silence a duré un long moment. Il y a eu ensuite un coup de canon. La distribution des prix a commencé. L'un après l'autre, les tireurs vont à la table où les demoiselles prennent sur la nappe le prix qui revient à chacun, parmi la verdure et les fleurs, les coupes d'argent, les pots d'étain. Ils tiraient dans les tirs de pipe. Il y avait trois manèges de chevaux de bois, un qui marchait à la vapeur, un qui était tiré par un petit cheval, un enfin qui tournait à la force des bras. Les trois musiques se mélangeaient dans l'air, comme quand il y a trois fumées qui n'arrivent pas à s'envoler faute de vent. Un homme tapait de toutes ses forces avec un maillet sur une tête de turc pour le prix. Le choc fait monter le long d'échelons gradués et numérotés une pièce de fer, et il y a dans le haut un timbre qu'il faut faire sonner. Alors on a droit gratuitement à un nouveau coup. Outre une belle rose en papier à feuillage d'or qu'on vous épingle à votre veste. Mais l'homme avait ôté sa veste, alors on lui mettait les roses à sa chemise, parce qu'il en avait gagné quatre. Mais il ne s'arrêtait pas. Il a dit « Vous allez voir ça !» On disait « Il va démolir la mécanique !» Six, sept, juste le temps de lever les bras de chaque côté de sa tête, et le maillet traverse l'air en demi-cercle, comme quand on veut fendre un tronc. Mais lui, c'est comme s'il fendait la terre, qui craque, qui tremble sous vous. Puis on entend un bruit, comme quand on fait partir une fusée contre la grêle. Le timbre sonne. Huit. Nom de Dieu. Mais l'homme a de nouveau les bras levés. Il a dit au patron, « Mets les roses par terre. » Au patron de la mécanique. Neuf. À mes pieds, vous allez voir ça. Alors, on a senti encore le coup dans les semelles. On a continué de l'entendre par les pieds, de loin, tandis que les chevaux de bois tournent et les enfants sont sur les petits, les grandes personnes sur celui qui marche à la vapeur et siffle, avec quatre rangées de pavillons de cuivre sous des miroirs et des peintures. L'illumination est entre les arbres. L'illumination va d'un arbre à l'autre, tout le long du quai. L'illumination est en guirlande qui pendent sur plusieurs rangs aux branches. Une lampe blanche, une verte, nos deux couleurs, nos deux belles couleurs. Une qui dit la pierre, une qui dit le mur, et c'est une moitié. L'autre qui dit la vigne, quand ses feuilles se sont ouvertes. « Hein ? » ont-ils dit. « Est-ce bien arrangé ? » Et puis « Ça va ? » Ça va, ou quoi? Et il y a eu encore les bateaux à vapeur, partant, arrivant, sifflant, battant l'eau, eux-mêmes chargés de drapeaux et de lampes de couleur, avec les autres pays qu'ils apportent, un tricolore, un jaune et rouge, un rouge et blanc. D'autres pays venus en visite sur les bateaux, deux, trois, quatre autres pays de par là autour attirés. Mais aussi, c'est que ça va, comme ils disent ici. Alors, vous autres, arrivez, il y a de la place, et puis aussi de quoi vous faire passer la soif, du vin et puis de l'amitié. La cantine était pleine, les épaules se touchaient. Le long des bancs, de chaque côté des tables, devant l'estrade où des gymnastes en blanc faisaient des pyramides éclairées par des feux de Bengale, un blanc, un vert, un blanc, un vert. Pendant que les chevaux de bois tournaient, pendant qu'on tire dans les tirs de pipe, 17, 18, mais seulement les roses devant moi. Oh, un coup de maillet, le timbre, 19, par terre, je te dis. Oh, et ça grimpe là-haut, sans qu'on voie plus rien à présent, parce qu'il fait nuit. Mais il y a le bruit, et puis le timbre sonne de nouveau. Et c'était dans le bout de la place du côté du Levant. À l'autre bout, il y avait la cantine.
Le pont de danse, alors, avait été dressé dans le milieu, avec son escalier de quelques marches, sa tribune, et tout entouré d'une barrière de planches sur lesquelles on avait cloué des branches de sapin. Et vert et blanc encore. Et il a dit à Mathilde, « Tu viens ?» On criait « Bravo !» à cause des gymnastes. Ils ont marché sur le gazon. Bovard disait, « À présent, on peut mourir !» On aura été payé. Il était assis dans la cantine à une des tables. Là, il s'est mis à parler tout haut entre deux morceaux de fanfare, disant qu'il pouvait mourir à présent. Il a appelé son fils. « Henri, tu es là ?» Et puis, « Regarde-moi bien, Henri. » Et eux, ils s'en allaient ensemble, marchant sur le gazon, ensemble, et il y avait la musique des danses, et la fanfare joue un pot pourri, et on chante en chœur les refrains. Bovard a dit, « Regarde-moi bien, et si c'est moi qui m'en vais le premier, n'oublie pas, il ne te faudra pas me plaindre. Quand tu me verras coucher pour toujours, dis-toi, tout va bien, il a été payé, ne me plains pas. Dis-toi, c'est en ordre, le compte y est, parce qu'il a été payé, il a donné... Mais on lui a donné, ça se balance. Et ils ont, là-bas, dansé une danse. Et ici, Bovard, dis-toi bien ça. Sans penser que son fils s'en ira peut-être avant lui. Et puis, même si son fils s'en allait avant lui, quand il me fermera les yeux. Et si c'est moi, la même chose. Et vous entendez bien, vous autres, vous êtes témoins. Alors il a fait venir une bouteille de son vin à lui. Alors qu'à la main, « Compris !» Bovard fait venir une bouteille de son vin. « Parce que c'est mon vin à moi. Alors vous êtes témoin. Henri. » Il trinque avec Henri. « Gilieron. » Il trinque avec Gilieron. « Et toi, Bron. » Il trinque avec Bron. « Et toi, qu'à la main. » Mais il y a longtemps que Calamain, lui, attend son tour. Alors Calamain a bu, il n'a rien dit. Il vide son verre d'un coup et ne dit rien. Puis il le pose et il ne dit rien. Puis, profitant de ce qu'on le regarde, il a ouvert toute grande sa main droite. Il y a les cinq doigts, il en referme quatre. Un doigt, plus rien qu'un qu'il montre et il dit « un seul ». Alors Gilieron hoche la tête, lui qu'on a vendu, mais il a dit « ça ne fait rien ». On l'a vendu, sa femme est partie, il dit « ça ne compte plus ». Il est sans femme, sans enfant, sans maison, sans meubles, sans terre, sans vigne. « Salut, Calamain, santé, Calamain !» Parce que Calamain, rien qu'un. Faisant alors le compte de ceux qui sont assis à cette même table, et un, plus un encore, et puis un pour finir, ça fait un. On danse sur le pont de danse. Il y a des matelots à col rouge, il y a des matelots à col bleu et à pantalon de toile empesé, des demoiselles à beaux cheveux bien ondulés sous les lampes. Il y a un seul mouvement, il y a une seule personne sous les lampes. Il y a les musiciens et leur musique dans la tribune, mais il y a partout de la musique, des musiciens. On ne sait plus où la musique d'ici finit, où l'autre commence. On tourne dedans, on va dedans, on marche, on se tient immobile, on est assis, on est debout. C'est partout la même, parce qu'on l'a en soi, parce qu'elle est en nous. Où qu'on aille, où qu'on regarde, tout le monde se touche, épaule à épaule. Coude à coude, cœur à cœur. On ne bouge pas sans que tout bouge. Et Congo, lui, c'est à peine s'il peut arriver jusqu'au pont de danse, étant en retard. La première chose qu'il a dite, c'est « Je l'ai là ». Il caresse la lettre de la main sous sa veste, puis sort une enveloppe bulle non collée qu'il a ouverte, et vous entraîne vers les lampes du pont de danse, disant « Je vais vous la lire ». Mais on lui a dit « Taisez-vous !» Tout à coup, en effet, on s'est mis à parler à côté de lui. Et c'est Miliquet, le vieux Miliquet, qu'on a descendu à travers les vignes. On l'a pris par-dessous les bras, et ils ont dû se mettre à deux, ceux qui sont venus avec lui, le tenant chacun sous un bras pour lui faire descendre les escaliers, à cause qu'il a eu les yeux brûlés il y a longtemps par un coup de mine. Et il venait dans la nuit, quand c'était le grand soleil, il venait sous le grand soleil, en bas, les vignes, disant « Où est-ce qu'on est ?» disant « Quelle espèce de temps est-ce qu'il fait ?» Je sens bien qu'il fait chaud, mais est-ce un temps couvert, un temps gris, un temps orageux, ou bien est-ce le tout beau temps? On lui disait, c'est le tout beau temps. Dans la nuit, comme ça, sans yeux, deux qui le tenaient chacun sous un bras. Alors on a dit à Congo, taisez-vous, et puis sauvez-vous. Parce qu'il y a le vieux Miliquet qui a dit, je vois. C'est lui qui vous dit à présent comment est le bal. Il vous dit des choses qu'on ne voit pas, parce que c'est en lui qu'il les voit. On le regarde, et il regarde aussi, mais pas de la même façon. Il est devant le pont de danse, qui est un peu plus haut que lui, il ne lève pas la tête, il la baisse, comme si ça lui venait d'en bas, comme si ça lui venait d'en dessous, et « c'est drôle, je vois tout !» Pendant qu'on l'a amené là, et il se tient là, le vieux Miliquet avec ses yeux fermés, et Congo est allé plus loin avec sa lettre. Il est là, sans yeux. C'est sans yeux qu'il voit. Il voit parce qu'il n'a pas d'yeux. Comique, cette petite, hein? Cette petite noire avec un ruban rose, un tout petit ruban rose, pas plus large que le doigt. Pendant que les couples se promènent en rond autour du pont de danse, et il n'y a point de ruban rose. Et puis la musique repart, et il n'y a point de petite noire, comme il a dit, seulement il voit quant à lui. Voilà Gatabin, point de Gatabin, et voilà Rosine, et Rosine, et point de Rosine. Mais lui, élevant la voix, « Salut Rosine, comment ça va-t-il » Il dit, « Je vois que tu as changé de bonne amie. » Il fait la conversation. Il lui parle de haut en bas, puis « Allons, Grisinelle, c'est toujours toi qui fais la basse !» À un des musiciens sur l'estrade, tout là-haut, la tête baissée. « Oh, je m'en suis douté tout de suite, il n'y a que toi pour la faire comme ça. Ne t'arrête pas, va seulement !» Et le plus beau, c'est qu'en effet, la basse, à ce moment, s'était arrêtée pour faire couler l'eau de son instrument, de sorte que Miliquet a pu se rendre compte qu'il ne se trompait pas. « Ne me réponds pas, pas besoin, vas-y vite !» Tandis que l'autre a remis en place son embouchure et reparti. Et Miliquet a vu qu'il était obéi. Il est content. Il dit « Ah, ces jolies petites robes toutes blanches du dimanche, ces rubans, ces nœuds de rubans, et ils ont des lumières qui éclairent bien, qu'est-ce que c'est, des lampes à pétrole ?» Allant loin en arrière à travers les modes et les habitudes, allant jusqu'à ces temps où on n'avait pas l'électricité, mais c'est qu'il voit en dedans. Il voit non les choses qui sont, mais les choses qui ont été. Et Congo, pendant ce temps, va avec sa lettre de groupe en groupe. Il est entré pour finir à la cantine. On l'a appelé. Calamain a dit « Voilà Congo !» Alors Congo, de loin, pose la main sur la poche de son veston, puis il vient difficilement. Il vient dans ses habits tout effrangés, sans col, son chapeau rongé par les pluies et enfoncé jusqu'aux oreilles. On l'a applaudi, on l'appelle. Personne aujourd'hui, voyez-vous, ne se présentera sans qu'on lui fasse accueil et qu'il trouve place parmi nous. N'importe qui, il n'y a plus de différence ni de distance. « Ici, Congo !»« Non, ici !» On l'appelle de tous les côtés, mais lui fait comprendre qu'il est invité déjà, qu'il viendra plus tard. Il rit, il bouge à côté de son oreille, sa main rose, il crie. « Dans un petit moment, et puis je vous la lirai à vous aussi, je vous promets !» On le pousse, il est soulevé, il tourne sur lui-même. La fanfare joue un nouveau morceau, on applaudit. Il arrive.
Viens ici, dépêche-toi, assieds-toi. Tiens, voilà un verre.
Équa la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis levant le doigt. 1. Et ayant montré l'assistance, il ouvre de nouveau sa main où est le nombre. Il la referme. Il ouvre sa main où il y a le nombre, il fait le nombre, il fait le nombre, il ferme la main, il le défait. Ils ont été les deux avec leur corps au milieu de tous ces corps, comme s'il n'y en avait point. Ils n'ont plus été que les deux, puis ils n'ont même plus été deux. Ils ont de nouveau marché sur le gazon. Ils sont allés parmi le bruit comme dans un plus grand silence. Ils sont allés, ils étaient deux, et puis ils n'ont plus été qu'un. Les mots qu'on a dans la tête ne peuvent plus servir pour les idées qu'on a. Alors on va aux vieilles idées, et on a besoin de parler, et en même temps, on ne sait plus parler. Ah, méchante ! Elle penche encore plus contre lui, elle répond en penchant ainsi. Et c'était un soir, alors ils m'ont dit « Allons la chercher ensemble ». On s'est mis quatre. Peut-être que c'est ça, dit. Est-ce que c'est ça? Mais elle non plus ne sait plus rien dire, alors elle penche. Elle répond seulement avec son poids. Elle vient avec son corps pour se dire, et ils ont été parmi tous ces corps comme s'il n'y en avait point, étant un seul corps, étant tous ces corps en un seul. Ils sont allés encore un temps parmi la foule, déserte d'eux, comme dans un désert véritable. Les chevaux de bois avec leur lumière tournent à une grande distance, puis ils se taisent dans la distance. Chaque voix qui vient, avant d'entrer en vous, se font en silence. Ils marchent encore sur le gazon. Ils arrivent au bord du quai, où il y a, entre les troncs, des bancs de pierre. Ils ont vu s'éteindre toutes les lumières, et tout s'en va de ce qui n'est pas eux, devant du ciel qui vient et des étoiles dans ce ciel. Ils montent à une pente bleue parce qu'il y a l'eau qui est devant eux. Nous, notre corps, nous deux, mais rien qu'une, rien qu'un, toi, moi. Il semble que la terre se renverse, ils regardent d'en haut le ciel. Devant la petite maison du pêcheur, les nasses sont posées l'une sur l'autre, et les canards blancs dorment pêle-mêle avec les poules noires à côté de deux paires de rames mises debout contre le mur. Ils regardent depuis un sommet de montagne. Les choses, toutes petites, sont en bas. Il y a du sable, des galets, il y a eu l'enrochement plus loin. Et le ciel est dessous par un renversement, tandis qu'il s'assied, ou bien si c'est elle. Ils voient qu'ils ne peuvent déjà plus débrouiller leurs mains. Il ne sait plus lesquelles sont à lui, lesquelles sont à elle. Il ne sait plus s'il tient, s'il est tenu. Il ne sait plus si ce qu'il sent, c'est lui ou elle qui le sent. Elle pense en lui, lui pense en elle. Elle tombe encore plus en avant. Il n'a plus de cœur. Elle a mis sa tête à elle, là où était son cœur à lui. Elle pense dans son cœur à lui, avec les pensées de sa tête à elle. Une fusée éclate au-dessus d'eux, laissant tomber trois boules de couleur, une bleue, une verte, une rouge. Et il les voit descendre, et elles montent vers lui. Ils se sont rejoints de partout. Ils ont été tenus ensemble. Ils sont mêlés l'un à l'autre et repétris. Ils n'ont plus été autre chose que les rocs sur lesquels ils sont, et en haut du rocher, la continuation du rocher. Au-dessus du ciel, vu plus bas, et continué. Le ciel revenu par en dessous et comme replié sous eux. Quand à ces étoiles ordinaires, les humaines ce soir ont été ajoutées, et les humaines descendaient et montaient, et eux étaient dans l'immobilité. Chapitre 15. Lui, c'est ce jour-là qu'il a choisi pour se mettre en route, parce qu'il a vu qu'on n'avait plus besoin de lui. Il a rangé dans le fond de sa hotte, comme toujours, son linge et ses habits de travail, soigneusement pliés. Par-dessus, au moyen de cordes, une à une, il a attaché ses paniers et ses corbeilles. Il les empile, qui ne vont plus servir ici. Un à un, une à une, en bel osier blanc, bien écorcé. Il refait toute la colonne, toute la construction, ses vapeurs, ce nuage. Et ayant posé la hotte à terre, il doit lever les bras pour les dernières pièces qui le dépassent, les assujettissant là-haut d'un double nœud. Il n'y a plus personne au village. Il va partir, on ne le verra pas partir. La femme chez laquelle il logeait lui a remis la clé de la maison en lui demandant de la cacher sous le tonneau de laurier rose. Puis, eh bien, bon voyage. Elle est allée à la fête. Il est seul, on ne saura pas. Il prend sa hotte entre ses bras comme un enfant. Il la pose sur une chaise. Il n'aurait pas pu la poser sur la table, elle est trop haute sous sa charge. Il la pose sur une chaise, il se retourne ensuite, et il lui a fallu se baisser un peu. Il va le long du corridor, vers dehors, il ferme la porte derrière lui. Il fait tourner dans la serrure la grosse clé qui croche, qui craque, qui grince, qui est retenue faute d'huile, qui ne veut pas venir quand il l'attire à lui, mais enfin elle vient. Il est sur le perron, il descend l'escalier, il est dans la ruelle. Là, sous l'avant-toit, le laurier rose commence à être défleuri. Il a glissé la clé sous le tonneau entre deux pavés, comme on lui a dit de faire. Il monte la ruelle. Il arrive sur la petite place. Il s'est arrêté un instant pour regarder l'endroit où il se tenait entre les deux platanes, sous une bâche dans les commencements, quand il pleuvait. Puis sous les feuilles, poussant aux grosses branches par petits bouquets, comme des buissons à du rocher. Là où il a été, où il ne sera plus, où jamais il ne sera plus. Mais personne ne prend garde à lui. Alors il s'arrête un instant, il regarde, puis il s'est détourné, s'engageant sur sa droite dans une autre ruelle qui rejoint la route. Il a fait encore quelques pas dans l'ombre, sur le petit pavé pointu, sous deux et trois doubles rangées de fenêtres dont aucune ne s'est ouverte. C'était le soir. Il commence à monter la route qui s'en va en travers du mont. Il marche encore un petit moment. C'est le soir. Il avait repoussé son chapeau de feutre en arrière et allait, tenant son bâton, s'élevant de plus en plus au-dessus des choses qui allaient en arrière. Et ainsi, on n'a pas su si ce sont elles qui l'ont quitté ou lui qui les quitte, parce qu'il va dans un sens, et elles vont dans l'autre. On les voit se retirer, en se resserrant, en se faisant petites. Le village s'est retiré, en même temps qu'il se resserre, et il descend. Le village glisse de côté, en même temps qu'il se laisse aller à la pente, et celui qui va toujours. Il est arrivé à l'endroit d'où on aperçoit le petit café rose qui pend sur le vide. Et il n'y a personne dans le café. Il s'est assis, là, sur le mur, à l'endroit où la pente, devenue tout à fait abrupte, est coupée de pans de rochers et tombe tout d'un coup jusqu'à l'eau, avant qu'on passe devant le café, et ensuite la route fait un premier contour. Là, donc, il s'est assis, se tournant, tourné vers d'où il vient. Il n'y a eu personne, il est seul, il regarde vers l'eau. Longtemps, le lac avait été comme un carrelage de ciment qu'on a arrosé, et l'eau de l'arrosoir a fait dessus des lignes noires qui s'entrecroisent. Longtemps, on avait à peine vu la montagne dans la poussière blanche que la chaleur faisait monter, comme quand on balaye une chambre. La trop grande lumière, le trop grand éclat du jour, et tout s'y tenait confondu. Alors, lui, une dernière fois, s'étant arrêté, a remis les choses en place. La montagne est venue dehors, la montagne s'est nettoyée. L'eau est d'un seul morceau, elle a séché, elle est une belle grande surface unie. Il a été dans les couleurs du soir, qui sont à présent hors de lui. Il s'assied dans les couleurs du soir, qui sont hors de lui. Il va sur la route, il s'assied sur le mur, et il a fait rose, et sa hotte est rose. Il est dans les choses, il voit qu'elles sont en place, il voit qu'il peut s'en aller. Il regarde, tout est bien, il écoute, tout est bien. Silence autour de lui, silence et solitude, et soir, tout autour de lui sur les pentes. Il n'y a rien eu que ce point, là-bas, mais il est là-bas comme un cœur qui bat. Avant que la rive s'avance pour faire sa pointe sur cet espace réservé qui s'en va comme exprès à plat, il y a cette réunion, qui n'est plus seulement l'étroite réunion de tous ces toits et leurs centaines. Ils ont chanté, ils sont ensemble, ils chantent, ils ont joué un air de danse, ils sont ensemble, ils tournent ensemble. Les orchestrions, les orgues mécaniques vous obéissent. On les fait partir, on les arrête, ils fonctionnent à notre volonté. Tout va bien. Quelqu'un a dû faire un discours, on applaudit. Il y a les poètes, on n'a plus besoin de lui. Ils ont appris à parler, ils savent tous parler. Lui se tait. Ils parlent tous à la fois. Lui est seul, tout va bien. Il regarde, tout est à sa place. Ils dansent là-bas une nouvelle danse. Ils font tourner tous les manèges de chevaux de bois en même temps. On les entend rire, parce qu'ils rient ensemble. Il n'y a qu'une voix, parce qu'il y a toutes ces voix. Et le jour a baissé encore. Alors lui a commencé à être dans la nuit, mais pas eux. Avant les étoiles du ciel, ils ont eu leurs étoiles à eux. On a vu leurs chariots, on a vu leur grand ours, on a vu leurs planètes vertes et rouges, on a vu leurs constellations. Ils ont fait avec leurs rues, dans leur ciel à eux, dans leur ciel d'en bas, des rectangles, des carrés, des triangles. Tellement de lumière s'allume sous les arbres que c'est comme des voies lactées. Il n'y a plus de nuit pour eux, à présent. Et lui, en même temps qu'il entre dans la nuit, il voit là-bas la lumière se refaire, succédant à celle qui s'en va, sans solution de continuité. Tout est bien, il est seul, il est dans la nuit, tout est bien. Il s'est levé, il réassure sa hotte sur son dos, donnant un coup d'épaule, tout en la soulevant par derrière des deux mains. Il recommence à aller. Encore une fois, les voix lui parviennent. Elles se haussent encore vers lui toutes ensemble, puis il passe devant le petit café qu'il met entre lui et elle. Celles des lumières qui sont le plus au couchant s'éteignent. Quelque chose comme une paupière vient dessus, une paupière qui viendrait de côté. Il tourne en même temps qu'il monte. Il y a toujours moins de lumière. Toutes ces voix qui ne sont plus qu'une voix diminuent de force rapidement. Il est monté encore, il n'y a plus eu de lumière du tout du côté d'en bas. On commence à ne plus voir le rivage. La route a tourné de nouveau, se dirigeant vers la crête du mont qu'elle va franchir, et la pente affaiblit. Elle commence à se mettre entre les choses qui étaient et nous. Le rivage nous quitte, le rivage nous a quittés. La paupière se déplie encore. Et voilà que c'est à présent les eaux elles-mêmes qu'elle entame, tandis qu'il se retourne et voit les eaux entamées. Mais tout est bien, et il quitte ce qui est vivant. L'autre rivage est attaqué. Cette fois, ça monte d'en bas. L'empêchement à voir, qui venait de côté, c'est maintenant d'en dessous qu'il vient, et cette Savoie est cachée. Elle s'enfonce lentement comme si elle pendait à des cordes, et toute cette grande chaîne, avec ses villages, ses vergers, ses vignes, ses champs, ses prairies, qui descendent, qui sont engloutis, comme s'ils pendaient à des cordes. Alors sont venus les rochers. Il y a eu les parois de rochers encore éclairées, qu'on voit descendre lentement en arrière du rebord obscur qui gagne. Il n'y a plus eu ensuite que les cornes, les pointes, les tours, les dents isolées l'une de l'autre, à présent plus tenues ensemble, qui se tiennent à des distances plus ou moins grandes. Tout est bien, plus ou moins haute. Et tout est bien. Et les moins hautes d'abord, puis les plus hautes. La moins haute qui s'en va, une autre. Il y en avait 10, il n'y en a plus que 6, plus que 2. Adieu, adieu toi, et puis toi. La toute seule, la toute grande, celle du milieu, la première venue, la dernière partie. Mais adieu, toi aussi, parce que tout s'en va. Et tout est bien, pendant qu'il se retourne encore. Alors une dernière fusée est montée derrière la crête, dans le ciel complètement vide, le ciel où il n'y a plus rien. Il y a eu ce dernier signal des hommes, ou bien si c'est l'adieu des hommes. Puis ce signal aussi n'a plus été, faisant la nuit plus noire encore. Il n'y a plus eu que la nuit partout devant vous et derrière vous. Il n'y a plus que la nuit là où il y avait l'eau, les grandes eaux, le mont, les deux rivages. La nuit de ce qui a été derrière celui qui s'en va, tandis que devant lui est la nuit de ce qui n'est pas encore, contre quoi il s'avance et persévère s'avançant, et contre ce grand talus d'ombre, parce que là les forêts commencent. Alors lui-même disparaît, et sa personne disparaît, allant plus loin dans rien du tout, afin que quelque chose soit. Il disparaît, et il n'a plus été sous la hotte, sous les paniers, sous l'entassement des paniers, sous la colonne des corbeilles. Mais tout à coup, c'est elle qui a recommencé à luire. Et, de nouveau, elle, lui, il y a partout la nuit, sauf sur elle. Elle redevient blanche, elle est claire.